Vous écoutez
RMC. La une du RMC Sport Show.
2 semaines de compétition, d'émotions sur RMC, des médailles, des déceptions. Et ce soir dans le RMC Sport Show, le bilan de ces Jeux d'hiver désormais terminé. On retrouve une dernière fois, avant qu'ils ne prennent l'avion pour revenir en France, nos envoyés spéciaux en Chine, Julien Richard et Arnaud Soux sont là. Salut les gars.
Salut, salut Thibaut, salut à toutes et à tous.
Bon, on est comment sur place? Est-ce que ça y est, tout est démonté, rangé en Chine?
Pas loin, ouais. On a même rangé la neige et le froid. Non, ça c'est pas rangé. Il y a toujours le froid, le vent, mais écoute, oui, effectivement, on est sur le départ. Ça sent la fin des Jeux Olympiques.
Ouais, tout ça est terminé. La cérémonie de clôture avec Quentin Fillon-Maillet en porte-drapeau. Vous rentrez quand mardi, c'est ça? Il y a encore une journée sur place demain?
Mardi matin, absolument. Ouais, on a un petit vol à 10h heure locale. 3h heure de Paris. Donc voilà, on a encore une petite journée sur Pékin demain.
Voilà, le temps de faire le transfert jusqu'à l'aéroport. Nous sommes aussi avec notre vice-champion olympique de slalom en 2002, notre membre de la Dream Team, Sébastien Amier. Salut Bastoun.
Salut Thibaut, salut à tous.
Bon, bah rentrons dans le vif du sujet. 14 médailles, hein, il n'y en a pas eu une supplémentaire aujourd'hui, dont 5 en or. La France termine finalement 10e du tableau des médailles, loin derrière l'intouchable Norvège avec ses 37 médailles, dont 16 en or. Bilan global, Bastoun, comme toi, comme ça, première question, est-ce que la France a réalisé de bons JO?
Ah, c'est mitigé, c'est toujours dur à dire. Bien sûr qu'on aurait tendance et tout le temps vouloir plus de médailles. Je pense que l'objectif il était supérieur à 14. En tout cas, avec l'équipe de France olympique qu'on avait, c'était jouable. Maintenant, on peut toujours le répéter, hein, la course des grands jours, elle est compliquée. On a vu des favoris passer à travers, que ce soit français, mais aussi d'autres pays. Donc c'est la course d'un jour, c'est la course aux médailles, elle est toujours délicate. Alors, je pense qu'honnêtement, il nous manque 4 médailles au tableau.
Ah oui.
Pas forcément des titres de champion olympique, hein, mais des médailles d'argent ou de bronze avec le ski cross, avec les bosses, avec le snowboard cross. Avec Alexis Pinturo aussi, forcément, on peut Tessa Worley puisque ça envisageait, voilà. Donc sur ces sports que j'ai cités, on avait le potentiel de faire peut-être plus de médailles, mais la loi du sport elle est comme ça et écrire les médailles avant de les faire c'est toujours compliqué, donc il faut faire les courses et puis on compte après.
On était quand même sur un Bastoun optimiste, hein, parce que tu disais 4 médailles de plus ça aurait fait 18, officiellement l'objectif juste avant les Jeux annoncé c'était 15 pour la France, donc on était sur un Bastoun optimiste. 15, c'était le total de médailles pour la France il y a 4 ans et il y a 8 ans. Sochi, Pyeongchang, c'était des records. Donc voilà, une médaille de moins. Julien et Arnaud, votre ressenti sur place, est-ce que la délégation française repart plutôt satisfaite de Chine ou un petit peu mitigée, comme vient de nous le dire Bastoun?
Il y a, à mon avis, il y a deux choses voilà, qu'il faut mettre en balance. On a des sports majeurs comme le biathlon et le ski alpin qui ont répondu présent malgré la défaillance de certains cadors annoncés. On peut penser par exemple à Alexis Pinturo, à Tessa Worley. En biathlon, je parle sous le contrôle de Julien Richard, mais je pense qu'on aurait pu potentiellement imaginer Emilien Jacquelin peut-être être un petit peu plus performant sur ces Jeux Olympiques. Mais voilà, bon, je pense que ça reste quand même le biathlon et le ski alpin, deux équipes de France vraiment contentes du bilan. Après, c'est vrai que pour le reste, voilà, on se souvient tous du podium en ski cross à Sochi avec le triplé. On se souvient tous de plein de médailles dans plein de disciplines un peu freestyle. C'est vrai que cette année, il y en a eu un petit peu moins qu'espéré et c'est vrai que voilà, ça fait forcément défaut dans le bilan.
Olivier Giraud, 14 médailles dont 5 en or, bon bilan ou pas? Est-ce que la France a réussi ses JO à ton avis?
Je ne sais pas ce qu'ils avaient prévu à la base, mais c'est vrai que si tu enlèves Quentin Fillon-Maillet, ça change le bilan. Et c'est vrai que souvent sur des jeux ou sur une compétition, y a certaines personnes qui sont capables d'atténuer un petit peu la méforme ou la non-performance. Donc moi je dirais mitigé. Mitigé parce que si tu prends épreuve par épreuve, il y en a quand même beaucoup d'épreuves où nous n'avons pas performé et il faut se poser la question de demain, pas de celles qui fonctionnent mais de celles qui ne fonctionnent pas.
Alors dans ce bilan, le biathlon ramène à lui seul la moitié des médailles, 7, dont 5 pour le seul Quentin Fillon-Maillet. Julien Richard, toi qui a commenté toutes les courses de Quentin, c'est la star de ces Jeux côté français. Lui va revenir en France avec une toute nouvelle notoriété. Il y aura eu un avant et un après pour lui.
Moisson historique pour le biathlon français, hein, puisque c'est le record, hein, cette médaille. Le record daté de Vancouver 2010, 6 médailles. Donc c'est, quoi qu'il arrive, un bilan historique. Et avec, en plus, c'est vrai, l'homme de ces Jeux Olympiques qui a traversé cette quinzaine en empilant les médailles. 2,750 kg, on les a pesés. Hein, c'est 5 médailles olympiques, 2 en or et 3 en argent. 2 titres olympiques, quand même, double champion olympique. Vous rendez-vous compte quand même de l'exploit que c'est, hein, pour ce petit gars du Jura, comme il se dit là, comme il le disait avec le drapeau français dans le stade olympique il y a quelques heures maintenant, lors de la cérémonie de clôture. 2 titres olympiques individuels pour Quentin Fillon-Maillet, 3 médailles d'argent, objectif plus que rempli. Et puis voilà, il a un peu écrit les livres d'histoire, c'est-à-dire que c'est quelque chose que même Martin Fourcade n'avait pas réalisé dans sa carrière, c'est-à-dire remporter 5 médailles dans une même édition des Jeux Olympiques. C'est inédit pour les sports d'hiver. Alors pour les hivers et été, Jeux Olympiques confondu, c'est déjà arrivé 2 fois, donc c'est la 3e fois, mais ça reste un événement rarissime. Après, il faut toujours pondérer en disant que il y a quand même très peu de sports qui offrent cette possibilité d'aller chercher autant de médailles, mais quand même, il fallait le faire, tout en gardant en tête qu'il était pas loin du grand chelem, c'est-à-dire d'obtenir 6 médailles en 6 courses, puisqu'il a terminé 4e de la Mastart.
C'est vrai que ça aurait été exceptionnel. Vos messages sur le hashtag RMC Live, le direct studio Mendes sur Twitter, qui dit: si t'enlèves le biathlon, la France n'a pas réussi ses JO, ça aurait été un fiasco. Mais le biathlon est là, Mendes fait ses 7 médailles. Et donc Quentin Fillon-Maillet, Olivier, 5, la star des Jeux. Comment on le place par rapport à Martin Fourcade? C'était lui la référence depuis 8 ans. Est-ce que Fillon-Maillet, c'est le nouveau Fourcade?
Je pense qu'il ne faut pas comparer. Et Martin était juste énorme. Et c'est lui qui a mis un petit peu le biathlon, même beaucoup, le biathlon français sur l'échiquier mondial. Et aujourd'hui, le marqueur, il a été mis encore plus haut. Et je pense sincèrement, on a envie de le connaître, en fait, ce Quentin Fillon-Maillet, parce qu'il a un sourire incroyable. Il a l'air d'avoir une personnalité que tu as envie de découvrir. Et c'est surtout énorme champion. C'est-à-dire que là, il a mis le marqueur très, 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 très haut. Et c'est surtout quand tu n'attends pas. C'est-à-dire qu'il a commencé sa saison, il a été très fort sur sa saison. Mais les Jeux, tu sais, souvent, il faut mettre un slip en bronze ou en béton quand tu vas aux Jeux, parce que c'est pas pareil, la pression. Ouais. Et lui, il l'a complètement absorbé, il a éclairé ses Jeux, et franchement, on le remercie, parce que il nous a représenté de manière fantastique. C'est juste Quentin Fillon-Maillet.
Voilà, et pour ce genre de débat sur le nombre de chances d'avoir des médailles, je vous renvoie vers le podcast des GG du sport qui ont fait un super débat ce matin. Vous êtes dans le RMC Sport Show, toujours avec Olivier Giraud, bien sûr, avec Bastou, notre membre de la Dream Team, Julien Richard, Arnaud Souk en direct des Chines, et notre invité ce soir dans le RMC Sport Show, le directeur technique national du ski français. Bonsoir Fabien Saguez.
Bonsoir à tous.
Merci beaucoup d'être sur RMC ce soir, toujours en Chine, hein. Pareil, vous n'êtes pas encore rentré.
Non, encore 2h30 au village olympique, à Zhangjiakou, et puis à 1h30 du matin pour nous en Chine, on prendra le bus pour se diriger vers Pékin, et puis ensuite prendre l'avion demain matin à 10h.
Et vous prendrez l'avion avec le sourire, Fabien Saguez, avec le sentiment du devoir accompli, ou avec en tête de se dire qu'on aurait pu faire un peu mieux sur ces JO?
Ah, c'est la grande tendance actuelle, j'ai entendu plein de choses, j'ai lu plein de choses. Vous savez, c'est comme les grands objectifs, on peut toujours faire mieux, on peut marquer un but de plus, on peut en marquer 2 de plus. Nous, on s'était fixé un objectif à 15 médailles, on en réalise 13, la Fédération française de ski. Quelque part, on a bien rempli notre mission, on a été présent dans toutes les disciplines. On a encore collecté quelques 4e et 5e places de grande valeur. Alors effectivement, on peut toujours avoir des regrets sur certaines épreuves en particulier, mais globalement, c'est une Olympiade réussie, oui.
Une question, Bastoun, pour Fabien Saguez.
Salut Fabien. Ben écoute, la question, il n'y a pas beaucoup de questions. Moi, je tiens surtout à féliciter aussi tout l'ensemble des équipes de France, parce que, comme on le dit, et comme le dit Fabien, il l'explique bien, aujourd'hui, on a des 4e places, des 5e places. Alors forcément, elles n'ont pas d'importance sur les Jeux, mais elles ont une importance aussi pour les athlètes qui ont participé, qui étaient là, qui ont tout donné. C'est toujours facile, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire les médailles avant la course. Ce qu'il faut retenir du bilan, c'est qu'il y a certains athlètes qui ont répondu présents lors de ce grand événement qu'on attendait. Il y en a d'autres qu'on attendait, qui n'ont pas fait leur médaille. C'est les premiers déçus, et c'est forcément ça. Et c'est vrai qu'après, on a tendance, et vous, journalistes sportifs, et nous aussi consultants, toujours à vouloir être les meilleurs.
Surtout les consultants.
Oui, sur tous les consultants, bien sûr. Et nous, on veut toujours mettre la barre plus haute par rapport au record de médailles. Voilà, on les a pas battus cette année, on les battra peut-être dans 4 ans. En tout cas, vu le nombre de disciplines, on est peut-être passé un petit peu à travers. C'est vrai que le quota aurait pu être supérieur. Mais voilà, c'est mon point de vue et c'est le point de vue de Fabien certainement aussi. Et puis du comité olympique français, parce qu'on en veut toujours plus et c'est normal puisqu'on est des compétiteurs et tout le monde est des compétiteurs.
C'est lesquelles les petites médailles qui manquent, Fabien Saguez ?
Oh, très clairement, j'en identifie 3 ou 4. Bon, pour commencer, Perrine Lafont. Bon, les boss qui ouvraient ces jeux pour nous, on a vécu des émotions un peu partagées. Perrine qui finalement a eu du mal à être au rendez-vous sur ces jeux. La médaille volée de Benjamin Cavet, on en a pas beaucoup parlé, mais très honnêtement, c'est une vraie injustice pour lui. Hein. Bon, c'est un sport à juge. Alors c'est toujours très très difficile de rentrer sur ce terrain-là, mais globalement, on était tous d'accord, y compris les chefs d'équipe étrangers, pour dire que Ben méritait une médaille. Je pense au sprint, au fond. Richard Jouve et Lucas Chanava étaient vraiment en frite. Honnêtement, bon, la configuration des demi-finales nous a pas convenu, nous a un peu surprise, et on n'a pas réussi à aller au bout. On peut aussi dire Tess Ledeux a fait une médaille en big air, c'est magnifique. Sur le slopestyle, elle était encore plus favorite que sur le big air. Bon, elle a eu du mal à tenir la quinzaine sur la longueur, ce que je comprends. Le snowboard cross team, qui effectivement là nous a déçus, mais on a fait un vrai plantage au fartage. C'était pas évident les conditions ici, je peux vous dire, neige extrêmement froide, difficile à appréhender. Le ski cross, où on aurait pu aller chercher aussi, où on a eu un peu de mal à s'adapter, et notamment sur ce qu'on appelle le start, hein, toute la première partie. Bon, quand on regarde le bilan, à la fois, si on revient sur les médailles et les médailles d'or, par exemple, je pense à celle de Justine Breza, on avait tous pas forcément coché cette course. Justine a eu du mal pendant toute la quinzaine, puis elle a eu sorti une course magnifique sur la dernière. Donc, vous savez, le lot des Jeux, très honnêtement, c'est difficile de gagner des médailles. C'est-à-dire, on peut dire ce qu'on veut, c'est vraiment compliqué. On a vu des athlètes en grande difficulté, pour nous, Alexis Pinturault, par exemple, mais c'est le cas d'une Michaela Schifrin qui repart sans médaille. Personne n'aurait parié là-dessus. Un pays comme le Canada, il fait un nombre de médailles assez conséquentes, mais très, très peu d'or, alors qu'il y a encore quelques temps, ils étaient quasi la meilleure nation mondiale. Donc non, c'est pour moi des jeux de très bonne facture et des jeux dans lesquels on voit qu'il y a une concurrence qui se densifie.
Fabien Saguez, le DTN du ski français dans le RMC Sport Show ce soir. Encore une question 2 pour vous. Justement, quand on se projette, ça y est, la flamme, le drapeau a été passé dans 4 ans, l'Italie, Milan, Cortina d'Ampezzo. Comment vous allez travailler ou sur quoi il faut travailler pour faire un peu mieux dans 4 ans, Fabien Saguez?
Bah déjà, il faut continuer à trouver des moyens supplémentaires. Parce que c'est quand même le nerf de la guerre, on dit ce qu'on veut. Dans nos disciplines, énormément de voyages, grosse logistique, il faut qu'on arrive à aller chercher des moyens supplémentaires. Il faut qu'on discute avec l'Agence nationale du sport, qui nous accompagne déjà très bien. Mais il faut qu'on arrive à faire mieux. Il faut qu'on arrive à faire mieux du côté des partenaires privés. Il faut qu'on augmente notre valeur. Ensuite, il y a l'analyse à chaud et puis un peu plus à froid au moment des sélections au printemps, sur lequel il faudra qu'on se rappelle bien des choses qui nous ont fait un petit peu défaut, des choses qui sont à entretenir et puis des choses qu'il faut qu'on fasse vraiment évoluer. La vraie perspective de jeu en Europe, moi, me ravit, me réjouit. Très honnêtement, ça va être des jeux à notre portée, dans le sens où c'est la maison, hein. Milan Cortina, c'est chez nous. C'est pas loin, c'est 4-5 heures de voiture, c'est des sites qu'on connaît parfaitement. Il faudra qu'on soit malin aussi dans l'approche et la préparation de ces jeux pendant les 4 prochaines années.
Merci Fabien Saguez d'être venu ce soir dresser ce bilan, votre bilan des JO côté français, directeur technique national du ski français. Et puis bon retour, bon vol, à bientôt Fabien.
Merci, à bientôt. Tout nous ouvre une bière. Hein.
Je crois qu'il nous voit, il ne vous a pas attendu.
J'y suis.
Il n'a pas attendu le conseil. Merci Fabien, bonne soirée. Au revoir, le RMC Sport Show continue. On dresse le bilan de ces JO qui se sont achevés cet après-midi lorsque Thomas Barr a annoncé lors de la cérémonie de clôture que les Jeux étaient justement clos officiellement, toujours avec Julien Richard, Arnaud Souk en direct de Chine, avec Bastoun, notre membre de la Dream Team, toujours avec Olivier Giraud. Intéressons-nous à l'inside, ces jeux vus de l'intérieur. Julien et Arnaud, vous allez nous donner ce que vous avez aimé, pas aimé sur place. On va commencer avec toi, Julien. Ces JO de Pékin qui viennent de se terminer, tu m'as dit, ça aurait été des émotions, du froid et de l'absurde.
Absolument. Alors, vous savez que la radio, c'est du son. Alors, du coup, je vais vous faire mon résumé des jeux avec du son. Pour moi, les jeux, d'abord, c'est ça. Ça a été ça. Voilà, donc des speakers qui ont un peu de mal encore avec la prononciation, mais des biathlètes français qui nous ont offert des émotions olympiques, comme la divine surprise, hein, Justine Brezaz Boucher, championne olympique, de la mass start. C'est aussi ça, écoutez, peut-être si on peut entendre ce petit bling bling, vous savez ce que c'est ça?
C'est une vache avec
c'est
un...
C'est les 2 kilos.
Ah d'accord.
Ça, c'est un peu ça, ouais. C'est dans les Alpages. Ouais, non, c'est ça, les 2 kilos 750 de médailles qui s'entrechoquent de Quentin Fillon-Maillet, quintuple médaillé, double champion olympique. Appelez-le Robocop. C'est son nouveau surnom. En plus, avec une version dorée. Donc, c'est quand même un peu plus classe. C'est aussi, vous l'entendez, 3 semaines. Je vais appeler ça passer en Absurdistan. Ce que vous entendez derrière moi, c'est ces faux supporters, spectateurs qui ont peuplé les tribunes. Ils étaient tous habillés pareil, une écharpe rouge évidemment autour du cou, et qui applaudissaient donc sur commande, hein, de sorte avec des sortes de gentils organisateurs locaux. Du froid polaire, de l'absurde réuni en même temps avec ce concert par exemple auquel j'ai assisté. Sans spectateurs et par moins 23 degrés. Des robots room service ou des robots faiseurs de hamburgers. Cette armée de volontaires en tenue de cosmonautes qui se désinfectent entre eux toute la journée, qui désinfectent aussi les roues des bus. Et à qui l'on pense d'ailleurs, parce qu'ils ont quand même passé 3 semaines enfermés dans du plastique. Les volontaires, les seuls Chinois finalement que l'on a pu croiser dans la bulle sanitaire hermétique ici dans ces Jeux Olympiques. Des volontaires parfois en panique totale à la moindre règle que l'on enfreint. Même la plus idiote, alors c'est pas notre style évidemment, nous français, hein, d'enfreindre ce genre de règles, mais des volontaires, non, fiers de leur jeu, ouverts, très chaleureux et heureux d'accueillir le monde aussi, et que ce soir on est un peu presque triste de quitter.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Puis, désolé, je peux pas vous quitter sans ça, écoutez. Ça, c'est la magnifique musique dans l'ascenseur de mon hôtel, 3 semaines.
Ouais.
Voilà, la radio, c'est du son, je vous le disais, et celui-là, ça aurait été vraiment dommage de le garder pour moi. Et j'espère que, comme moi, vous l'aurez dans les oreilles et dans la tête pendant de longues, longues heures.
C'est très très bon. Ça change les musiques d'ascenseur dont on a l'habitude en France. C'est quoi le son? Je mets Shazam. Merci Julien. Alors les émotions, les émotions de Julien Richard en direct de Chine. Arnaud Souk, toi aussi sur place, les émotions qui le retiennent.
J'ai cassé l'ambiance moi.
Oui, parce que non, mais c'est ça aussi les JO justement. On en fait des caisses et on est heureux de le faire quand il y a des médailles, il y a les émotions positives, mais malheureusement. Pas de médaille pour tout le monde et pas des émotions positives pour tous.
Oui, je voulais vous parler ce soir de la tristesse, du vague à l'âme, de la détresse de ces champions d'exception quand les choses ne marchent pas, façon pudique de dire quand tout va de travers et quand la réussite fuit comme de l'eau entre les doigts. Ce genre de moment vécu ici en Chine par les 2 skieurs en activité au palmarès les plus étoffés, Michaela Schifrin chez les filles, Alexis Pinturo chez les garçons, l'américaine et le français ont traversé la quinzaine comme 2 âmes en peine venues pour tout rafler, reparties les mains vides, une similitude poussée jusque dans les émotions exprimées par ces champions à 24 heures d'intervalle lors de 2 échecs majeurs respectifs. Ils vont se retrouver face à la presse et craquer. Michaela Schifrin d'abord. Voilà, c'est pas la fin du monde de perdre une course, dit-elle en sanglots, avant d'évoquer son papa, son idole, son phare, décédé brutalement il y a 2 ans.
But he's not here to say that. So, on top of everything else,
S'il était là, il me dirait probablement de passer à autre chose, mais il n'est pas là, dira ce jour-là la skieuse du Colorado. Même piste, 24 heures plus tard, même désillusion pour Alexis Pinturo. Évidemment, le contexte familial est très différent, mais lui aussi va craquer.
Je pensais pas... Je suis désolé. Désolé.
Voilà, je vous ai raccourci la scène, mais sur le coup, elle a bien duré deux bonnes minutes de pleurs, de sanglots d'Alexis Pinturo, réconforté par notamment l'attaché de presse de l'équipe de France. On ne peut pas, en tant que témoin de la carrière de ces champions, et en particulier de celle d'Alexis Pinturo, rester totalement insensible. Ces sanglots lâchés à une poignée de journalistes assidus auprès du skieur sont aussi la preuve d'un lien, d'une attache, d'un respect mutuel, peut-être quelque part aussi une manière pour le sportif d'exorciser dans une sorte de psychothérapie à chaud. En tout cas, cette détresse, elle ne laisse pas insensible quand on connaît les sacrifices réalisés pour atteindre l'objectif d'une vie. Elle procure une émotion forcément différente par rapport à celle d'une victoire, une émotion pourtant tout aussi intense, j'ai envie de dire, tout aussi troublante.
Ouais, merci Arnaud, merci Julien pour ce témoignage. Alors t'as pas cassé l'ambiance, tu m'as mis les poils sur le mec qui est la chiffrine, Arnaud. Ah bon, ouais, Bastoun, évidemment mieux placé que quiconque pour comprendre ces émotions, toi qui est en plus probablement passé par toutes les émotions parce que t'as connu la médaille et la non-médaille. Qu'est-ce que tu retiens de ces jeux? Est-ce que finalement le plus fort c'est quoi? C'est l'émotion positive, j'imagine, pour toi, l'ancien slalomeur d'un Clément Noël champion olympique, ou tu es peut-être encore plus touché par la déception, même un peu plus pour Alexis Pinturo, ses larmes.
Oui, ben c'est vrai, quand on entend les témoignages là, d'Arnaud et les sons d'Arnaud, c'est émouvant parce que c'est des athlètes qui ont tout gagné, qui ont tout raflé depuis 10 ans au plus haut niveau, qui ont repoussé à chaque fois les limites et qui repoussent les compteurs des victoires en Coupe du Monde. Et puis ce jour-là, ben voilà, ce jour-là, tu passes à travers. Et pourquoi? Et pourquoi? Tu te poses la question, parce que c'est ça aussi qui est dur. Tu as tout fait jusqu'à maintenant pour être là le jour J. Tu as tout mis en place avec ton équipe, avec tes entraîneurs, avec ton matériel pour être là le jour J. Et puis tu te perds, et en une fraction de seconde, la machine s'est déréglée, et c'est ça l'être humain. Comme je dis souvent, dans un athlète aujourd'hui, la carte à puce, elle est facilement déréglable, elle ne se reprogramme pas si facilement, et c'est ce qui en fait la beauté du sport, et c'est ce qui aussi nous donne ces frissons-là quand on l'écoute. Alors bien sûr que de l'autre côté, on vibre avec les victoires, avec les médaillés, et notamment Clément Noël qui était attendu, qui était dans une position favorable à la fin du mois de janvier. Sauf que depuis 4 ans, c'est aussi le garçon qui skie le plus vite, qui est regardé par tous, qui est copié par tous, par les entraîneurs et par les jeunes coureurs. Et puis il est allé chercher cette belle médaille qu'il a su construire aussi le jour de le grand jour, parce que c'était pas simple. Il y avait cette année un brassage important au niveau des victoires en Coupe du Monde. Tous les athlètes, on va dire les 22 premiers, étaient capables d'aller jouer cette médaille, et cette médaille d'or que tout le monde convoitait. Et ben lui a été le meilleur jour là. Et puis émotionnellement, c'est sûr que c'était fort pour moi, parce que comme je le dis et je le répète, j'ai été que vice-champion olympique, mais j'ai vécu un titre de champion olympique avec Jean-Pierre Vidal, et grâce à lui, j'ai connu la Marseillaise, donc c'était émouvant, et 20 ans après, ça rappelle de beaux souvenirs.
Ouais, c'était magnifique, 2002, Salt Lake City, 19h23, Olivier Giraud, quelle émotion, toi, tu retiens, positive ou pas, d'ailleurs, comme on vient de l'entendre avec Arnaud ou Julien de ces Jeux Olympiques?
Bah écoute, je vais peut-être te surprendre, mais moi, ce qui m'a filé des frissons, c'est l'interview de Kevin Roland, tout simplement parce que après la grave blessure qu'il a eue, et dans ce sport si dangereux qu'est le sien, honnêtement, personne n'aurait pensé qu'il serait revenu, et c'est lui qui a eu les mots justes, juste déjà d'être sur les skis. Cette sixième place pour lui, c'est presque une médaille d'or, parce que il est remonté, il est reparti à la compétition, et finir sixième après ce qui lui est arrivé, bah, c'est juste exceptionnel, et moi ça m'a beaucoup touché.
Ouais, c'était il y a 3 ans, un grave accident à ski, coma pour Kevin Roland, il y a 3 ans simplement. Il termine sixième hier de l'épreuve de Halfpipe du ski acrobatique, et effectivement, histoire exceptionnelle, et d'ailleurs il n'y avait aucune déception.
Aucune. Pour lui, c'est une vraie victoire, et moi je l'ai vécu comme ça.
Il est 19h25, je remercie tout le monde, merci les gars, Julien Richard, Arnaud Souk en Chine, bon retour à vous.
Chine, la vie, oh, oui. Carine, la vie, la.
Ça, ça va être ce soir.
Ça, c'est Daniel Torres, réalisateur en régie. Il me parle de cette musique depuis. Et le film avec Belmondo, Un singe en hiver. Merci, Daniel.
Il l'a placé.
Eh oui. Julien, Arnaud, bon retour. Bastoun, à très vite. Olivier, tu restes là. Le RMC Sport Show continue. Il est 19h25. Dans un instant, la minute foot en direct du Vélodrome. Et la deuxième période du RMC Sport Show. Le Stade Toulousain va-t-il finir par rater les phases finales du top 14? La question se pose après la défaite incroyable hier à Poix, tout de suite sur RMC.
RMC Sport Show.
Thibaut Giangrande.
Merci d'écouter RMC, le RMC Sport Show, votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio avec Olivier Giraud ce soir en direct jusqu'à 20h. Vous nous écoutez peut-être en voiture. C'est un week-end, Olivier, de chasser-croiser, comme on dit. Et certains commencent leurs vacances, d'autres les terminent. Donc merci de les commencer ou de les terminer en notre compagnie. Bon courage si vous bossez demain. Il y aura le foot ce soir, vous l'avez entendu avec la grosse voix. Marseille-Clermont, 20h45. On ira au Vélodrome dans un instant. Dans une vingtaine de minutes, notre invité, un champion olympique sur RMC. Renaud Lavillenie l'a repris sa saison il y a quelques jours. Il était au All-Star Perche hier. Ça a été un peu compliqué pour lui. Mais il a des ambitions encore à 35 ans. Il nous dira lesquelles. Il sera notre invité. On parle également rugby dans un instant. Le Stade Toulousain, la chute. Oui, mais jusqu'où? On entendra les Toulousains et on sera avec notre correspondant Wilfried Templier. Mais d'abord, place au foot comme tous les dimanches soir à 19h30.
RMC Sport Show.
La minute foot.
Dans 1h15, le dernier match de la 25e journée de Ligue 1, Marseille contre Clermont. Clément Brossard est déjà au Vélodrome. Salut Clément.
Salut Thibaut, salut à toutes et à tous. Ça commence à se remplir un petit peu, on attend 50 000 personnes ce soir dans une ambiance qui, on l'espère, sera aussi chaude que lors du match face à Angers, ce magnifique 5-2 il y a quelques semaines.
Et oui, l'OM qui veut consolider sa deuxième place. Les Niçois sont revenus cet après-midi à un point provisoirement, dans une atmosphère un petit peu bizarre à Marseille, parce que tout va bien d'un point de vue sportif, mais l'ambiance est bizarre Clément.
Oui, c'est vrai, après cette victoire face à Angers et de Nice à 1-0, ils ont qu'un petit point d'avance les Marseillais, ils pourraient creuser l'écart ce soir, mais c'est vrai que c'était le feuilleton de février vraiment, avec ce triplé d'Arkadiusz Milik contre Angers ici au stade Vélodrome. Derrière, il y a une défaite en Coupe de France face à Nice, ça c'est anecdotique pour parler de l'histoire entre Milik et Sampaoli. Et puis vient ce match contre Metz où Milik est sur le banc des remplaçants, il n'apprécie pas, il entre, il marque et derrière il a ses mots. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Derrière, c'est un match face à Karabag cette semaine qui s'est déroulée et la Milik a encore marqué sur une grande forme, mais en sortant il tape dans la bouteille, il fait exprimer du moins son mécontentement, et derrière les mots de Jorge Sampaoli en conférence de presse, et bah s'il n'est pas heureux il doit en parler à quelqu'un, mais c'est pas à moi. Donc voilà l'ambiance un peu chaude, le torchon brûle entre ces deux hommes là en tout cas, alors que Flo Germain arrive à l'instant. On verra dans la composition, évidemment c'est jamais évident de savoir la compo de Jorge Sampaoli, mais si Milik est titulaire, ça nous donnera déjà des éléments de réponse pour savoir si ça va un peu mieux, si le contexte s'est apaisé entre ces deux hommes-là.
Olivier, c'est quand même, il n'y a que Marseille ou Paris quasiment pour tout va bien d'un point de vue sportif, t'es deuxième, t'es en course en Coupe d'Europe et tu te mets le feu tout seul à la maison.
Bah ouais, parce que sinon, il n'y a pas de saveur.
Voilà,
donc, je le dis toujours à coach Courbis, je dis, tu sais, t'auras du boulot toute ta vie parce que même quand il se passe rien, il se passe toujours quelque chose dans le foot.
Ouais, c'est magnifique. Rendez-vous à 20h45 pour ce Marseille-Clermont, dernier match de la 25e journée de Ligue 1. Les compos à suivre, si ça tombe aux alentours 19h45, Clément et Flo en direct du Vélodrome, vous nous faites un petit coucou pour nous dire si Milik est là ou pas, puis l'analyse des 20h dans l'after sur RMC. À tout à l'heure les gars, 19h30. Ils étaient impressionnants dans la victoire, ils le sont désormais tout autant dans la défaite. Pas de demi-mesure pour le Stade Toulousain, battu pour la 6e fois consécutive en top 14, du jamais vu dans l'histoire du club. Et la défaite d'hier à Pau est hallucinante. Toulouse a joué à 2-2 plus pendant une demi-heure.
La victoire de la section paloise au bout du bout, avec beaucoup de courage, avec un fort caractère. Ils sont parvenus à s'imposer face au Stade Toulousain à 13 contre 15 après avoir subi des vagues et des vagues de la part des Toulousains. Et finalement, la section paloise sort victorieuse de ce grand rendez-vous. La grosse colère de la part du Stade Toulousain qui a subi un nouvel échec, le 7e de rang, toute compétition confondue.
La deuxième période du RMC Sport Show.
Oui. C'est un peu ça, le Stade Toulousain. On a l'impression que c'est un gros bateau qui est rentré dans un glaçon et qui vit des moments difficiles. Le Stade Toulousain va-t-il finir par rater les phases finales du top 14? Bonsoir Wilfried Templier.
Bonsoir Thibaut, bonsoir Olivier, bonsoir à toutes
Salut
et à tous.
Wilfried.
Notre correspondant à Toulouse. Alors la série de défaites est impressionnante, Wilfried, on va en parler.
Enlevez-moi cette musique s'il vous plaît.
S'il vous plaît.
Écoute Wilfried, si tu n'aimes pas Céline Dion, n'en écoute pas les autres. Le match d'hier est quand même ahurissant, cette défaite à Pau 27-22 avec un scénario incroyable. Wilfried, c'est complètement fou ce qui s'est passé hier au stade du Hameau.
Oui, avec un stade toulousain dont on attendait beaucoup après ces 5 défaites de suite en top 14 et qui était à la 49e minute mené 27-3. À ce moment-là du match, la section paloise a le bonus offensif, mène 3-0 alors que les Béarnais sont à 14 depuis la 33e minute et le carton rouge distribué au centre Manu Toumoua pour un coup de poing sur le 3e ligne toulousain Alban Placine. Et malgré cette supériorité numérique, Toulouse est dans les choux à ce moment-là. Mais on n'était pas au bout de nos surprises, tu dis match complètement dingue. Deux minutes plus tard, nouveau rouge pour les Palois, pour Vatouboua, cette fois-ci pour un plaquage coup de tête à Choco Barrès, l'Argentin du Stade Toulousain, qui lui sortira sur civière. À 15 contre 13, Toulouse inscrit tout de même 3 essais en 9 minutes, revient à 27-22. Il reste à ce moment-là un quart d'heure à jouer, à 15 contre 13, mais les champions d'Europe et de France en titre n'arriveront pas à dépasser les Palois, malgré une dernière pénale touche qui se transformera en mêlée et puis en pénalité pour Pau. Écoutez l'entraîneur des avants Jean Bouilloux, touché et impuissant à la fin du match.
Ouais, dur à digérer, ouais. C'est vrai que dur à digérer. L'effet de match font qu'on revient dans le match grâce au fait de ces deux cartons rouges qui nous permettent de revenir. Et on a une balle de match effectivement là qui. Donc en ce moment c'est compliqué pour nous de ne pas concrétiser cet amphore. On est face à une certaine stérilité de notre jeu et c'est vrai que bon, ça fait. Plusieurs week-ends qu'on le constate et c'était encore le cas ce soir.
Ouais, impressionnant. On entend les mots, surtout le ton employé par Jean Bouilloux. On sent que c'est compliqué dans la tête. Perdre un match comme ça, Olivier Giraud, c'est. En fait, on dépasse le cadre du rugby. Wilfried le dit, il y a une remontée fantastique et logique. Ils sont deux de plus dans un match de rugby. C'est exceptionnel. Ils ne mettent plus un point dans le dernier quart d'heure.
Là, il faut pas juste regarder ce match-là, il faut vraiment voir tout le contexte. C'est vrai que lorsqu'il y a eu la tournée a commencé de l'équipe de France et on sait, on va reparler des doublons. Évidemment que le Stade Toulousain a les moyens de pouvoir supporter ces doublons, mais il faut regarder aussi ce que le coach met en place. C'est-à-dire que Gomola, déjà quand tu perds juste ton meneur de jeu. Qui est une pépite. Ça veut dire que tu construis ton jeu et ta philosophie autour d'un joueur.
Je parle d'Antoine Dupont.
Après, quand tu as 10 joueurs qui ne sont pas là, il faudrait en fait qu'Hugo Mola, aujourd'hui, réfléchisse tout un autre système de jeu avec les joueurs qu'il a aujourd'hui. Parce que cette équipe de Toulouse, que tu le veuilles ou pas, ça veut dire que tu peux remplacer un doublon sur deux week-ends ou j'aime pas dire le terme remplaçant, peuvent faire ce travail.
Les finisseurs,
voilà, dit autour d'un projet de jeu. Mais sur la longueur, sur autant de matchs, c'est très compliqué et encore plus compliqué lorsque tu commences à avoir une spirale de défaite. Ça veut dire que à la fois c'est pas les meilleurs joueurs qui sont là et sans leur faire offense, mais à la fois psychologiquement cette notion d'un groupe qui vont être les leaders sur le terrain pour pouvoir sortir de cette spirale pendant que les leaders sont en équipe de France, c'est compliqué.
Sixième défaite de suite pour le Stade Toulousain. On en reparlera. Cinquième du classement, mais seulement 3 points d'avance désormais sur le septième, le premier non qualifié pour les phases finales. Olivier parle des doublons et des très nombreux absents des internationaux français côté toulousain. Comment on en est arrivé là, Wilfried, tout simplement?
Alors, il n'y a pas que les doublons. C'est vrai que ça joue effectivement, mais si on regarde dans le rétro un petit peu, dernière victoire pour le Stade Toulousain le 27 novembre face à Brive, 18-11. Il y a 3 mois déjà. Mais déjà, il y avait des manques dans le jeu. On l'avait souligné un peu à l'automne. On avait plus les tueurs de la saison passée qui, à l'époque, dès qu'ils rentraient dans les 22 mètres adverses, ils marquaient à coup sûr l'année dernière. Toulouse a perdu le fil, en fait, messieurs, au mois de décembre. Il y a eu 3 matchs reportés en 4 semaines. Ça a complètement explosé la dynamique et tout ce qu'ils avaient prévu de faire sur le mois de décembre. En plus, derrière, il y a le tournoi, donc ils ont prévu des choses au niveau de l'effectif, du temps de jeu pour certains, moins pour d'autres, mais ça a tout foutu en l'air. Et en plus, dans ce mois de décembre, sur ces matchs reportés, 2 de ces 3 matchs, c'est-à-dire les réceptions du Stade français de Montpellier, auraient dû se jouer au complet avec les internationaux, 8 à 10 pendant le tournoi. Et ces 2 matchs se sont transformés en doublons, c'est-à-dire sans les internationaux qui sont en équipe de France. L'un est déjà perdu, c'était contre contre le Stade Français au Stadium, il y a 10 jours. Et l'autre aura lieu dans 15 jours contre Montpellier, qui est pas manchot cette saison, et c'est qui clair. Est deuxième au classement. Malgré tout, le demi d'ouverture Thomas Ramos, lui, il se cache pas derrière ça. Écoutez-le, il veut plutôt une remise en question.
Le Stade Toulousain n'a jamais connu une période d'autant de défaites, donc voilà, c'est on a gagné et maintenant il faut savoir aussi perdre. Mais par contre, il faut, comme je disais au mec tout à l'heure, il faut se regarder dans une glace, il faut regarder ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de pas bien, ce qu'on fait de moins aussi par rapport aux années passées, parce que peut-être qu'on a fait un peu moins, et au final que les équipes qui étaient derrière nous, elles en font plus pour nous rattraper et aujourd'hui nous passer devant.
Thomas Ramos qui a joué hier avec Toulouse, mais qui va repartir avec le 15 de France de la semaine prochaine.
Oui, qui était libéré. Il y avait deux joueurs libérés, Aldeguerri, le pilier, Thomas Ramos. Voilà, c'était pas du luxe, mais il repart, il sera pas là le week-end prochain.
Olivier. Et puis il y a une chose qui est impitoyable dans le sport collectif, et encore plus quand tu es une équipe qui a l'habitude de faire peur aux autres. Le moment où tu as une petite faiblesse, les autres.
Ça sent l'odeur du sang, Olivier.
Exactement.
Hein, en face des adversaires,
tout le monde a envie de te battre. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Toulouse. Et il va falloir un gros déclic, un gros match, tout simplement, qui pourra leur permettre de repartir sur une autre dynamique. Mais je pense que les autres équipes du top 14, et tu l'as dit, rencontrer le MHR, ça va être compliqué. Parce que eux, la spirale de la victoire, ils sont en plein dedans. Eux, ils ont été dans le dur pendant très longtemps. Et que je pense que cette équipe de Toulouse, ils l'attendent de pied ferme.
Alors, Montpellier, dans 15 jours, d'ici là, dans une semaine, l'UBB,
déjà,
le leader du top 14 la semaine prochaine. Je disais au classement, Wilfried, 5e du top 14, 3 points d'avance simplement sur le 7e, le Stade Français. Donc, l'UBB puis Montpellier, voir le Stade Toulousain rater les phases finales en fin de saison, on peut commencer à se poser la question. C'est plus du tout inimaginable, Wilfried.
Alors, ils peuvent regagner des matchs à un moment, mais oui, ça peut arriver. Si l'hémorragie continue, ils sont en danger. On disait sur les 3 prochains matchs. Tu l'as dit, venu du leader UBB avec l'antagonisme qu'il y a entre Christophe Furios et Hugo Mola. La semaine prochaine, il n'y aura pas de cadeau, évidemment. Déplacement au Stade Français. Qui est moins touché par les internationaux absents, et venu, on l'a dit, de Montpellier. Mais le problème, parce que à ce moment-là, c'est à la fin du tournoi destination, le Montpellier vient le week-end de France-Angleterre, le dernier match du tournoi destination. Mais à la fin de ce tournoi, on se dit que les internationaux reviennent, mais souvent, et d'une, ils sont rincés, et de deux, on leur donne une semaine de vacances. Or, une semaine après France-Angleterre, il y a Toulouse-Lyon. Une semaine plus tard, Castres-Toulouse. Et dans la foulée, 8e de finale aller-retour face aux Irlandais de l'Ulster en Coupe d'Europe.
Violence du calendrier.
Oui, le Stade Toulousain est bien en danger. Derrière, il restera 4 matchs de championnat. Il y a un déplacement à Toulon, la venue de La Rochelle. Le Stade Toulousain est bien en danger pour rester dans les 6 premiers du top 14. Ils peuvent regagner un moment, mais quand on regarde le calendrier, oui, c'est un petit peu effrayant pour ces jeunes qui d'habitude sont dans du confort pour arriver en équipe première. Il y en a beaucoup dans cette équipe, hein, les Cramon, Boubila au talonnage, Delib derrière, voilà, qui normalement évoluent, voilà, arrivent dans bien encadrés et dans des victoires, et là sont dans le dur. Et tu l'as dit, Olivier, hein, la spirale négative. Quand elle est là, c'est difficile de s'en sortir.
Et justement, comment en sortir? Le constat, il est là, il est terrible pour le Stade Toulousain. Est-ce qu'il y a des ressorts quand même, Wilfried, au club? Je crois que déjà, on va quitter Toulouse quelques jours la semaine prochaine. Hein.
Ouais. Eh ben, ils sont partis, en sortant de Pau, ils sont partis en stage à Souston, dans les Landes. Et ils y restent jusqu'à mercredi soir pour sortir un peu de la pression peut-être toulousaine, ou sortir du cadre un petit peu, se retrouver ensemble. Ils étaient censés faire une petite journée en montagne aujourd'hui, et ils veulent s'aérer un petit peu la tête parce que ça devient difficile. Top 14, vous imaginez, Olivier, t'imagines, 27 novembre, la dernière victoire.
C'est clair.
Ils s'en sortent plus, quoi. Ils trouvent pas les solutions.
Écoute, pas trop penché du côté des paris, mais par contre, cette équipe-là, si elle est capable de faire preuve de résilience, là, actuellement, et de se tirer les miches un petit peu de cette situation difficile, ça peut aussi sentir le titre à la fin. Et moi, je te le dis.
Ah ouais. C'est-à-dire que c'est soit ils y vont pas du tout, et s'ils y vont, ils y vont beau.
Alors, si cette équipe-là est capable de se reconstruire et de taper un des gros, hein, parce qu'il y a des gros aussi qui psychologiquement, s'ils perdent contre cette équipe de Toulouse, ça fait crêpe renversée. Ouais. Et quand les doublons vont revenir, l'équipe de Toulouse, elle sera peut-être injouable.
Ouais, je pense que la motivation des autres équipes, et notamment des candidats top 6, c'est justement de les sortir sur les prochains matchs. Se dire, quand ils vont récupérer les Marchands, les Bail, les Dupont, les Ntamak, ils seront évidemment difficiles à jouer, quoi, si en phase finale, ce Stade Toulousain-là. Donc c'est aussi les Montpellier, les UBB, les Stades Français, l'objectif pour eux, non seulement de prendre des points, mais de les écarter de la route des phases finales.
Ouais, c'est compliqué pour le Stade Toulousain. Vos messages sur le hashtag RMC Live, le direct studio Aze qui nous dit ah, les dégâts des doublons et dire qu'on veut encore rajouter l'Afrique du Sud. Ça a été évoqué pour le tournoi destination, mais a priori ça a été démenti ça, hein, Wilfried. Enfin, doucement démenti, mais bon.
Non, doucement démenti. On verra, c'est pour 2025. Ouais, là, l'entrée peut-être de l'Afrique du Sud dans le tournoi destination, ça en ferait un de plus. Oui, ça c'est un autre débat, mais ce serait pour l'après 2025. Voilà, mais de toute façon c'est une incongruité. Je sais pas, Olivier, toi qui viens du handball, voilà, des matchs en même temps. Enfin là, ça fait 6 doublons, hein, 7 avec novembre. Vous imaginez, il y a 26 journées de championnat. Vous jouez 7 matchs sans vos meilleurs joueurs, mais on le souligne quand même, il n'y a pas que ça dans les problèmes du Stade Toulousain.
Et puis le problème de jeu. Fred, le problème était inverse avant, quand les joueurs étaient moins avec le 15 de France. C'est le 15 de France qui avait moins de résultats. Et rappelle-toi, Philippe Saint-André.
Le confort est pour le 15 de France. Philippe Saint-André, il prenait ses joueurs 4 jours avant le match.
Exactement.
Des fois,
donc, il aurait rêvé de les avoir autant. Bon, en tout cas, on suivra évidemment ce Stade Toulousain pour son prochain match. Ce sera sur RMC, bien sûr, le week-end prochain.
C'est dimanche prochain, ouais. Stade Toulousain et UBB, Ernest Vallon.
Et ce match vaudra quelque chose. Merci Wilfried. Passe une bonne soirée, bonne semaine.
Voilà. Il a remis.
Tout à l'heure, j'ai balancé Daniel Torres, réalisateur de cette émission.
Vous avez des goûts particuliers, quoi.
Alors là, c'est Geoffrey Charpey, tout simplement.
Ah, d'accord.
Mais c'est validé, hein. Y a pas de souci, on se défausse pas.
Son côté féminin.
Ouais, exactement. Déconstruit. Merci Wilfried. Passe une bonne soirée avec Céline. 19h42, le RMC Sport Show en direct jusqu'à 20h avec Olivier Giraud. Dans un instant, l'invité, un champion olympique, Renaud Lavilloni sur RMC. À tout de suite.
RMC Sport Show.
Grande. 19h44, Olivier Giraud est là. On est en direct jusqu'à 20h, comme tous les dimanches soirs, pour votre rendez-vous sport du dimanche à la radio. Dans un quart d'heure, l'after arrive autour de Gilbert Bribouet du dernier match de la 25e journée de Ligue 1. Marseille, Clermont, titulaire ou pas, Milik ? Réponse dans quelques instants. Normalement, les compos vont tomber. Vous les aurez en direct sur RMC. Les JO sont terminés. On en a fait le bilan ce soir en début d'émission. Notre invité dans le RMC Sport Show est lui une légende des Jeux. Les Jeux d'été.
L'invité du RMC Sport Show.
Bonsoir Renaud Lavilloni.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en direct sur RMC. Champion olympique 2012 de saut à la perche, bien sûr, médaille d'argent 4 ans plus tard. On va parler de toi dans un instant, ta saison bien sûr, mais déjà on parle JO. Est-ce que quand on a les JO dans le sang, sur la peau même pour toi, est-ce qu'on s'intéresse aussi au temps, en tout cas aux JO d'hiver? Est-ce que t'as beaucoup suivi là, cette quinzaine à Pékin?
Oui, alors beaucoup. J'ai essayé de la suivre du mieux que je pouvais. Après, c'est toujours compliqué aussi avec le décalage horaire et puis aussi avec les entraînements, etc. Mais c'était quand même compliqué de ne pas suivre, surtout vu les bons résultats qu'il y a pu avoir.
Alors, t'as retrouvé d'un point de vue personnel la compétition hier pour le All-Star Perche, ce concours que tu organises chez toi à Clermont-Ferrand depuis 7 ans. Bon. 5m51 hier, t'avais passé 6m06 il y a un an au même endroit. Qu'est-ce qui s'est passé, Renaud? Hier, on a vu beaucoup d'émotions sur ton entrée en lice, notamment.
Ouais, c'était vraiment très compliqué hier, pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que ma deuxième compétition de la saison, donc il faut arriver à régler tous les bons paramètres, en sachant que j'étais sur 16 foulées là il y a 2 semaines et là l'objectif c'était de me mettre sur 20 foulées qui est mon élan complet, mais que du coup c'est un élan qui vraiment se travaille essentiellement en compétition et puis d'arriver un peu à gérer un petit peu tout ça. J'ai eu beaucoup de problèmes à vraiment régler mes marques et arriver au bon endroit, et ce qui fait que je maîtrisais très mal mes intentions et donc je suis passé clairement bien à côté de ma compétition. Donc beaucoup forcément de frustration parce que s'il y a un endroit où je veux pas que ça arrive, c'est forcément à la maison. Mais voilà, après ça fait partie du jeu. La compétition m'a énormément réussi par le passé. Donc voilà, je vais essayer surtout de m'en servir pour préparer le week-end prochain avec les championnats de France qui vont être aussi une compétition importante, quoi.
Olivier Giraud.
Et salut Renaud.
Autre champion olympique, hein, bien sûr. Quand un champion olympique parle à un champion olympique.
Alors je reviens sur ce que tu viens de dire, Renaud. S'il y a un autre endroit où t'aimes pas que ça t'arrive, c'est quand même aux Jeux Olympiques. Et c'est vrai que la dernière fois qu'on t'a quitté, alors que t'étais en pleine possession de tes moyens, t'as eu ce pépin physique pendant les Jeux et je tiens à te féliciter parce que tu as continué quand même, hein, malgré cette blessure. Comment t'as vécu tout ce moment de récupération pour revenir à la forme optimale depuis cette blessure?
Honnêtement, c'était super compliqué parce que, pour remettre un peu dans le décor, 3 semaines avant les Jeux de Tokyo, je me fais vraiment une grave entorse avec une rupture d'un ligament et un œdème osseux en interne. Et donc j'ai fait une course contre la montre qui a été juste monumentale et j'ai réussi à faire les Jeux presque, je sais pas comment, mais en tout cas j'ai réussi. Et puis quoi qu'il arrivait, je pouvais pas me permettre de lâcher l'objectif. Sauf que derrière, après, il a fallu beaucoup de temps pour récupérer. Et quand j'ai repris au mois de novembre, tout le côté un peu inflammatoire de la cheville était clairement passé. Et donc, il a fallu que je passe par toute une phase de renforcement, de tout réaligner. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps sur le début. Là où normalement j'étais censé reprendre le saut à la perche, début mi-novembre, j'ai pu commencer à vraiment refaire des vraies séances qu'à partir du mois de janvier. Donc voilà, tout a été décalé et pour moi, ça a été compliqué d'être patient parce que je pense que je connais aucun sportif de très très haut niveau qui est patient. Mais à la fois, je voulais pas non plus revivre une saison de galère avec des blessures. Donc il a fallu que j'arrive à vraiment prendre le temps. Et c'est pour ça que hier, j'étais, même si la performance est clairement pas au rendez-vous, la satisfaction que j'avais, c'était de pouvoir me dire que je suis entier physiquement, que j'ai pas eu à me plaindre de la moindre défaillance physique sur le moment, et que voilà, ça progresse.
Justement,
pour moi, une bonne victoire, quoi.
T'es en pleine forme là. Comment t'es? 20 février 2022, c'est oublié. Il y a plus aucune douleur.
Non, je peux pas. Clairement, en fait, je me sers de vraiment toute la saison hivernale pour essayer de remonter, enfin de retrouver un petit peu plus de puissance parce que j'ai perdu beaucoup de qualité de pied sur ma cheville gauche qui en plus le pied d'impulsion. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc j'essaye vraiment d'utiliser cette saison en salle pour reprendre un petit peu tout ce travail-là et j'ose espérer que pour avril-mai. Je puisse être, on va dire, à peu près complètement débarrassé parce que la cheville arrive à vraiment bien se gérer, mais il faut que je sois vigilant et voilà, j'ai des soins tous les deux jours dessus pour vraiment pas perdre le moindre degré d'amplitude. Donc je suis pas rétabli à 100% parce que notamment l'œdème osseux, pour ceux qui en ont déjà eu, c'est quelque chose qui est vraiment très 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 long. Donc pour ça, il faut attendre et puis continuer de s'entraîner pour pas perdre parce que si j'ai une refonte musculaire, voilà, c'est la cheville elle va repartir dans ses travers et donc c'est tout ça que je veux éviter, quoi.
Renaud, à part Roger Federer, je connais pas de sportif en activité qui à la fois sont dans leur compétition et à la fois l'organise. Et encore Roger Federer, je pense qu'il y a 150 personnes qui lui organisent sa compétition. C'est pas trop dur de faire, si c'est automatiquement c'est dur, en fait c'est une mauvaise question, mais c'est pas compliqué d'être à la fois l'organisateur et en plus avec ta soif de compétiteur de réussir dans sa propre compétition?
Objectivement, il y a les deux côtés. C'est évident qu'on va perdre de l'afflux nerveux parce que quand on est compétiteur, on va pas organiser quelque chose en se disant on va faire le minimum puis ça va passer. Non, on veut que ce soit tout parfait, donc on va mettre la pression sur les personnes qui vont travailler avec nous pour que ça soit vraiment à notre image et que ça soit vraiment tout bien calé. Moi je sais que depuis alors j'ai la chance que voilà, on est sur la 7e édition, donc j'ai des repères. On est un peu rodé, mais chaque année il y a toujours des choses qui vont être différentes. Donc j'ai quand même une très bonne équipe sur qui je peux me reposer. Mais voilà, c'est un peu l'envers du décor. Et à côté de ça, il y a quand même le fait que quand je suis on va dire sur le côté purement athlète, le moment de l'événement, j'ai toute cette énergie de l'organisation en fait, que je récupère et qui me donne un coup de boost phénoménal. Et je pense que c'est pas pour rien sur les 7 éditions, j'ai quand même franchi 2 fois 6 mètres, 2 fois 5 mètres 93 et 94. Donc voilà, c'est quand même des grosses perfs. voilà, on sait que la limite des fois est vraiment pas très 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 loin, mais c'est un tel bonheur de pouvoir vivre des émotions comme ça, à la fois de se dire que voilà, il y a tout est là un petit peu grâce aux efforts que j'ai pu faire à tout niveau, et c'est une belle récompense après quand on voit que la compétition a un beau succès, quoi.
Renaud Lavillenie est en direct sur RMC. Encore une question ou deux, Renaud. Alors 5m51 hier, on l'a dit, il y a 15 jours à Tourcoing c'était 5m81. Les minima pour les mondiaux sont dans la poche, les mondiaux en salle à Belgrade, il y aura les championnats d'Europe cet été. L'objectif, malgré cette blessure qui t'a gêné, qui te gêne encore un peu, c'est quand même d'aller chercher l'or sur ces deux compètes.
L'or, c'est un petit peu ambitieux. c'est pas que j'ai pas envie de gagner, mais
Roger Federer, il serait parti chercher l'or. Hein.
ouais, mais quand t'es face à un Nadal ou un Djokovic, tu sais que tu vas pas comme ça. Et moi, mon Nadal Duco, il s'appelle Duplantis et il envoie le pâté en ce moment là. Donc honnêtement, évidemment, je vais pas sur la compète en me disant je veux faire deuxième. J'y vais pour gagner comme tous, mais en étant lucide, je pense avoir encore les moyens de pouvoir me battre pour le podium, et c'est pour moi le plus important. Après, bah évidemment, si je suis en mesure de me battre pour le podium, on sait que la différence des fois entre le troisième et le premier, c'est peut-être un essai, c'est une barre, donc ça peut vite aller dans le bon sens comme dans le mauvais. Mais pour moi, cet hiver, voilà, j'attendais de passer un déclic hier que j'ai pas eu. Je vais être obligé de faire le maximum dimanche au championnat de France pour essayer de redresser un petit peu la tendance et reprendre des bons repères. Et si tout se passe bien, il reste encore 4 semaines pour les championnats du monde, donc ça me laisse encore un peu de temps pour bosser. Et puis surtout, après, l'objectif cet été, évidemment, c'est on a des championnats du monde aussi en extérieur au mois de juillet, et puis les championnats d'Europe. Donc j'ai trois championnats internationaux qui arrivent, et l'objectif, c'est à minima de monter une fois sur la boîte. Et si je peux le faire 3 fois, ça serait forcément le must, quoi.
Renaud, t'as pas voulu dire redresser la barre, parce que redresser la tendance. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Olivier,
Renaud, écoute, je vais te poser une question qui va pas te plaire. Parce que t'es toujours dans la compétition, mais je voulais te poser une question. Ce savoir-faire. Je pense qu'il ne faut pas qu'ils se perdent. Est-ce que dans ce que tu vois dans le futur pour toi, transmettre ce que tu as fait, c'est quelque chose qui te parle ?
Oui, ça me parle parce que je le fais déjà un petit peu, en fait. Je pense que déjà via le All-Star Perche que j'organise, où ce que l'on voit le plus, c'est la compétition internationale. Mais avant ça, il y a plein de choses. Il y a des concours de tout niveau. Faut se dire que là, sur l'ensemble des 3-4 jours d'activation qu'on a eu, j'ai eu 150 jeunes de Clermont qui sont venus découvrir la perche. Et j'ai eu en tout quasiment 200 performances qui ont été faites en partant de 2 mètres jusqu'à 6 mètres quasiment. Donc voilà, ça l'est un petit peu. Et puis après, même moi dans mon quotidien, je suis pas tout seul à l'entraînement, et justement j'ai quelques jeunes que je prends un petit peu sous le coude, bah notamment Ethan Cormon qui était avec nous aux Jeux Olympiques cet été, qui voilà, pour moi est peut-être un potentiel pour 2024. Donc j'en ai un petit peu, ça se passe beaucoup avec les affinités, mais
ouais. Tu verras ça après 2024, hein, c'est ça.
On va attendre encore un petit peu, mais, okay. Mais en tout cas, voilà, il y en a beaucoup qui bénéficient de mon expérience au quotidien, et qui essayent du coup de s'en servir et de progresser. Ouais.
Merci beaucoup Renaud Lavillenie d'avoir été sur RMC ce soir. On te souhaite une bonne saison et à très vite dans le RMC.
Salut Renaud.
Salut Renaud.
Merci
bonne
beaucoup,
soirée.
Bonne soirée.
Et bonne semaine. À bientôt. Merci. Quel plaisir d'avoir un champion olympique. Bon, en plus il y avait bien, quoi. Content d'être là. Quoi.
Franchement, il est facile. Renaud.
19h57. Merci Olivier. Merci. Bonne semaine. À très vite.
À ton
plaisir. L'after arrive dans un instant autour du match Marseille. Clairement, dans un instant, les compos, l'analyse. Milik titulaire. Voilà. Tout ce que je vous dis. Bonne semaine.
RMC, l'after foot.
Le match. RMC.